arabe et plus précisément zoom sur les fractures de ce monde arabe qui déchire la planète autour de la table des mots de l'info. Yves Izard du service Monde de France Info, bonjour Yves.
Bonjour.
Et Frédéric Pichon, chercheur à l'université de Tours, vous êtes également l'auteur de Syrie, pourquoi l'Occident s'est trompé. Bonjour.
Bonjour.
Alors Yves Izard, première question tout d'abord, est-ce qu'il y a un seul monde arabe ?
Non, pour faire simple, on va dire qu'il y a sans doute une ligne de fracture entre les chiites et les sunnites, que beaucoup de choses peuvent se comprendre avec cette fracture entre deux principaux courants de l'islam, les sunnites qui représentent quand même à peu près 80% des fidèles musulmans dans le monde, les chiites 15%. Le panarabisme qui existait à un moment a fait long feu. Il y a la ligue arabe qui ne réussit pas à unifier tout le monde, et loin de là. Aujourd'hui, il y a deux puissances régionales que sont l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite qui s'opposent. Et au milieu, il y a l'Irak qui est en conflit permanent, au moins depuis 2003, depuis que les chiites minoritaires ont repris le pouvoir aux sunnites majoritaires dans la population. Alors il y a des appels incessants de la communauté pour former un gouvernement inclusif, c'est-à-dire avec toutes les communautés, notamment les sunnites, restent sans réponse. Alors il y a les djihadistes de l'État islamique qui se sont engouffrés dans ces États instables comme l'Irak et puis la Syrie évidemment, et on parle de la Libye maintenant. Voilà un petit peu, si on veut schématiser, ce monde arabe qui n'est pas du tout unifié pour l'instant.
Frédéric Pichon, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut parler de... Est-ce que c'est pas une erreur de langage de dire le monde arabe au singulier?
Alors, dans un premier temps, j'aimerais insister sur les facteurs d'unité. Mmh. Il y a, je crois, le monde arabe, et c'est tout à fait paradoxal, est sans doute la zone du monde qui a les potentialités d'unité, de par sa langue, du Maroc à l'Irak, en passant par la péninsule arabique, en passant par l'Égypte, on a quand même une aire de civilisation commune autour de la langue arabe, l'arabe classique, Fosra, évidemment subdivisée en dialectes dont les gens originaires du Maghreb savent très bien d'ailleurs que même au Maghreb, un Marocain ne comprend pas un Algérien quand il parle dans son dialecte, mais potentiellement on a vraiment une unité culturelle linguistique. Alors effectivement, le grand paradoxe, c'est qu'il y a des fractures nombreuses, des fractures religieuses, comme vous l'avez rappelé, évidemment, qui divisent ce monde, mais au-delà de cela, il y a un certain nombre de fractures, parce que, vous avez dit, le panarabisme a échoué, le nationalisme arabe aussi a globalement échoué, mais très paradoxalement, et je crois qu'on est en train de beaucoup parler autour de, justement en ce moment, des accords de Sykes-Picot, paradoxalement, moi je pense que ce nationalisme arabe, ces nationalismes arabes en tout cas, ont fini, en fin de compte, quand même, par marquer les États arabes de la zone. Je crois qu'il y a un nationalisme égyptien, un nationalisme syrien encore, je crois que c'est une illusion comme...
Est-ce qu'on lit les mêmes fractures d'ailleurs en Syrie?
Je crois que, alors effectivement, en Syrie, on a quand même une majorité de la population qui est d'obédience sunnite. Mais vous voyez, prenons l'exemple de la Syrie en particulier, mais je crois que ça pourrait s'appliquer aussi à l'Irak. Il y a, alors c'est vrai, au bout de 40 ans, d'un nationalisme syrien extrêmement tatillon, un véritable sentiment national dans la population. C'était extrêmement difficile en Syrie, ça l'est toujours, je l'ai encore vérifié, de se définir par rapport à sa religion, par exemple, ou l'origine de sa communauté, même si il y a un certain nombre de noms de famille ou de prénoms qui, évidemment, permettent de savoir de quelle communauté. Mais il y a un nationalisme syrien, l'idée que finalement, au-delà de ces appartenances religieuses, on peut avoir une appartenance nationale. Et vous voyez, je vois en ce moment des projets américains qui parlent de constituer une espèce de Sunnistan entre l'Irak et la Syrie. Bon, au-delà de ce que j'appellerais cette fausse bonne idée, qu'on a déjà testé par le passé, je ne crois pas du tout que les sunnites syriens, ou en tout cas des sunnites syriens, naturellement iront s'installer dans un Sunnistan où il y aura aussi des sunnites irakiens, ne serait-ce que pour une raison, qui est que c'est pas du tout les mêmes dialectes, par exemple. Alors, certes, on peut toujours communiquer avec l'arabe classique, mais le dialecte irakien n'est pas du tout le même que le dialecte syrien. On a des vraies fractures sociétales, des modes de vie qui se sont constitués.
Que vous dites, ça fait
et un nationalisme qui reste quand même assez fort.
Yves Izard, on assiste quand même à ce qu'on pour rappeler une recomposition de ce monde arabe.
Oui, alors, d'une part, il y a eu ces printemps arabes, et on a cru, justement, parce que peut-être qu'il y avait un monde arabe qui commençait à se réveiller à la démocratie, entre guillemets, sauf que ça s'est vraiment arrêté en Syrie, puis après, ça a reculé dans beaucoup de pays. Vous dites, l'Occident s'est trompé en Syrie, pourquoi il s'est trompé?
Bah, pour la raison que vous venez d'invoquer, c'est-à-dire on a cru à une espèce de prophétie révolutionnaire, homogène, et je crois que justement les printemps arabes et la différenciation, hein, la fragmentation des printemps arabes, les résultats extrêmement différenciés qu'on a eu maintenant qu'on a un petit peu de recul, prouvent bien que justement on n'avait pas un mouvement qui pouvait être un mouvement global. Je crois que les Égyptiens ont répondu à leur manière à ces printemps arabes, évidemment. Je crois que Sisi est quand même une espèce de clone de Moubarak, d'une certaine manière. Je ne crois pas non plus que, si vous voulez, le cas tunisien soit exportable non plus dans l'ensemble des pays. Je crois que le nationalisme syrien, d'une certaine manière, continue de résister à sa manière. Donc là aussi,
au prix parfois du sang, on pourra toujours dire que c'est quand même au prix fort. Alors, en Égypte, c'est un prix très très fort.
En Syrie. Mm-hmm. Et puis, il faut bien le dire, il y a une tradition, alors ça va plutôt dans le sens de l'unité du monde arabe, on a une tradition d'autoritarisme et de violence, hein, politique, il faut bien le dire, qui unifie en quelque sorte la zone.
Mais ce serait peut-être, si ça redessine une carte finalement, est-ce que vous êtes un peu conservateur, Frédéric Bichon, c'est-à-dire est-ce que vous dites on va retomber sur nos pattes en gros enfin,
Oui, moi, j'ai l'impression. Enfin, si vous voulez, déjà, si on prend le Maghreb, finalement, la Libye, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui sort. Mm-hmm. Mais enfin, l'Algérie continue sur sa lancée. Bon, les Algériens, eux, prétendent et pensent les printemps arabes comme quelque chose qu'ils auraient vécu dans les années 90. Le Maroc réagit aussi différemment. Et puis, le Maroc a des contentieux très lourds avec l'Algérie. La Tunisie, c'est un petit peu à part. Donc là aussi, je crois que on a peut-être vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je crois qu'on s'est un peu emballé au début, et finalement ce sont en quelque sorte les spécificités nationales, les traditions historiques de ces pays qui vont finir par redessiner cette carte du Moyen-Orient.
Oui, parce que n'empêche qu'on n'arrête pas de dire que ça y est, les frontières c'est fini, la preuve entre l'Irak et la Syrie, au niveau de la Turquie, bon la Turquie tient certes, mais il y a le Kurdistan, il y a les Kurdes, qui sont la grande peur de la Turquie, ils ne veulent pas qu'ils s'unifient, les trois grandes entités kurdes si on veut. Alors, ça se redessine ou pas? Ou vous pensez que ces frontières qui ont été tracées il y a près d'un siècle vont continuer?
Écoutez, alors dans le cas des Kurdistans, vous avez tout à fait raison de le dire. Déjà, il y a l'opposition d'un certain nombre de puissances locales, notamment la Turquie, mais même il y a des oppositions entre Kurdes eux-mêmes. C'est-à-dire que les Kurdes eux-mêmes se sentent Kurdes irakiens, d'autres se sentent Kurdes syriens et d'autres Kurdes.
Il y a aussi des lignes de fracture.
Finalement, ce nationalisme, ces accords Sykes-Picot, tant décriés, etc., ils ont fini par devenir quelque chose quand même de réel. Je ne défends pas. Il est évident que s'il s'agissait d'une entreprise coloniale de dépeçage de la région, dont on a vu les effets pervers en Afrique aussi. Hein. Donc ça, on est dans le schéma classique. Mais moi, je ne veux pas croire qu'immédiatement, on puisse se passer de ces frontières. Et je crois que ce sera extrêmement douloureux. Encore une fois, c'est une fausse bonne idée, je crois. On l'a testé, l'idéalisme wilsonien l'a testé dans l'après-guerre, l'après-première guerre mondiale. On a vu ce que ça donnait en Europe, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On a vu ce que ça donnait, ça a été un accouchement dans le sang, cette division de l'Europe, notamment l'éclatement de l'Empire austro-hongrois, ça a mené à la Deuxième Guerre mondiale. C'est un des facteurs qui ont mené à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la fausse bonne idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, attention, l'Allemagne nazie a utilisé cet argument pour le pan-germanisme et l'impérialisme allemand jusqu'en 1939.
C'est-à-dire, en quelques secondes, on joue toujours aux apprentis sorciers, c'est ça? C'est ce que vous dites en filigrane?
Oui, de toute façon, oui, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de voir que cet occidentalisme, cette manière de concevoir le monde, reste quand même la matrice générale dans laquelle l'histoire se perpétue, même si de son côté l'Occident est le premier à regretter, à se battre la coulpe sur justement les conséquences de ces erreurs historiques.
Mm-hmm. Ibizar du service Monde de France Info, merci. Frédéric Pichon, chercheur à l'université de Tours, également, vous êtes également l'auteur de Géostratégie du Moyen-Orient chez UPPR. Les mots de l'info, c'est sur France Info et franceinfo.fr.